Bonjour tout le monde. Donc, dans ce nouvel enregistrement, je vais vous expliquer le deuxième cours intitulé l'analyse interne du texte littéraire. Donc, la dernière fois, dans le premier cours, on a étudié les premiers éléments à analyser lorsqu'on est en contact avec un texte littéraire, notamment le roman qui s'appelle le paratexte. Et on a parlé du titre et de la préface comme les éléments les plus importants de cette analyse. Quand on aura compris, quand on aura lu et compris le titre d'un roman et sa préface, on va essayer d'analyser sa structure narrative. Donc, le texte littéraire est à étudier à la fois dans son rapport avec le hors-texte et dans son organisation interne. Ce qui nous intéresse, nous, le plus, c'est l'organisation interne du récit. L'analyse critique doit à la fois considérer le texte comme une production de l'esprit en rapport étroit avec d'autres textes articulés sur l'histoire et la société, et comme un produit fini qui prend sens dans les réseaux internes qui se tissent, pardon, dans sa texture même. Donc, le texte est un produit social. Pardon. C'est-à-dire qu'il est le produit du parcours social et culturel de son écrivain. On ne peut pas le dissocier de son contexte culturel, on ne peut pas le dissocier de la biographie de son écrivain, mais aussi il a une propre structure interne qui génère elle aussi un sens et qui est aussi interprétable. Donc, pour ce faire, pour analyser la texture interne d'un texte comme un produit fini, l'analyse interne du texte a repris la distinction faite par Benveniste entre récit et discours. En narratologie, on retient aussi la distinction entre histoire et discours dans un récit. Il dit, Benveniste, que l'œuvre littéraire est histoire, dans ce sens qu'elle évoque une certaine réalité, des événements qui se seraient passés, des personnages, etc. Mais l'œuvre est en même temps discours. Il existe un narrateur qui relate l'histoire. Il y a en face de lui un lecteur qui l'aperçoit. À ce niveau, ce ne sont pas les événements rapportés qui comptent, mais la façon dont le narrateur nous les a fait connaître. Donc, quand on fait une analyse de discours, on n'analyse pas le contenu, c'est-à-dire qu'on n'analyse pas ce que dit le narrateur ou ce que raconte le narrateur, mais on analyse la manière avec laquelle il nous raconte l'histoire. C'est ça qui nous intéresse dans un texte littéraire. Pour Ricardo, la narration est la manière de conter et la fiction est ce qui est conté. Donc la fiction qui est l'histoire, c'est le contenu, ce sont l'ensemble des événements racontés, tandis que la narration, c'est l'acte de narrer, c'est-à-dire la manière de narrer. Et chaque écrivain, il attribue à ses narrateurs, à son ou à ses narrateurs, une manière de raconter l'histoire. Et c'est cette manière que nous allons analyser lorsqu'on fait une analyse ou une lecture narrative ou narratologique d'un texte littéraire. Donc cette distinction entre récit et discours est essentielle pour l'analyse des œuvres littéraires. L'interprétation doit alors se faire par palier, c'est-à-dire par niveau. Et s'il existe des convergences entre ces différents paliers de l'interprétation, niveau narratif, niveau discursif, etc., il faut la démontrer. Cette distinction est utilisée par tous les narratologues sous des formulations différentes. Donc, il y a plusieurs approches établies par différents chercheurs et en fait, ils changent de dénomination, mais la méthode les méthodes sont convergentes. Donc, chez Benveniste, il fait une opposition entre récit et discours. Chez Todorov, il fait une opposition entre histoire et discours. Chez les formalistes russes, ils appellent ça la fable et le sujet. Chez Gérard Genette, on trouve l'histoire qu'il appelle la diégèse et le récit qu'il appelle le discours narratif. Et enfin, chez Ricardo, on retrouve une opposition entre la fiction et la narration. Bien évidemment, ces deux niveaux ne sont pas étanches l'un par rapport à l'autre. Donc, ils interréagissent l'un avec l'autre, car l'histoire n'est jamais pure de tout discours et inversement. La fiction n'est pas reproduction du réel, mais une sélection d'éléments issus du réel, réarrangés, structurés, donnant naissance à un monde autre, un univers fictif nourri du réel, mais différent de lui. Je reviens à cette idée que, dans un texte littéraire, le monde décrit n'est pas le monde réel que nous vivons en réalité. Le monde décrit, c'est la vision, c'est une vision que l'écrivain a du réel, c'est une reproduction, c'est une imitation du réel, mais ce n'est jamais un monde réel. Tous les éléments qui figurent dans un texte littéraire sont des éléments fictionnels. Donc, quels sont les agents du récit, c'est-à-dire quels sont les agents qui permettent d'avoir une narration? Les agents du récit. Repérer la structure d'un texte permet d'en circonscrire l'architecture et d'en reconnaître le rythme général. C'est un travail de base pour bien connaître le texte que l'on se propose d'étudier et qui représente une première étape avant de passer à l'interprétation. Donc, la reconnaissance de ces éléments de narration vont nous permettre de faire une description de la structure narrative de tout texte littéraire. Au niveau de la narration, les agents du récit sont le narrateur, premièrement le narrateur et le narrateur. Dans un roman qui s'intitule « L'élu » écrit par un écrivain qui s'appelle Thomas Mann, ou Mann. Le récit commence par une formidable volée de cloches et dès le troisième paragraphe, on lit le texte suivant. Écoutez, qui donc sonne les cloches? Les sonneurs? Point. Avec le peuple entier, ils se sont précipités dans les rues dès l'instant où se déchaînaient ces prodigieux carillons. Soyez-en persuadés. Les clochers sont vides, les cordes pendent inertes, et pourtant, un mouvement de houle emporte les cloches. Les battants grondent, dira-t-on, que nul ne les met en branle? Non, seul un cerveau étranger à la grammaire et à la logique le saurait prétendre. Les cloches sonnent, cela signifie elles sont sonnées. Dussent les clochers être totalement vides. Qui donc fait se mouvoir les cloches de Rome? Le génie de la narration? Mais peut-être est-il partout, doué d'ubiquité? Sur la tour de Saint-Georges à Valabre, là-haut à Sainte-Sabine qui garde les colonnes de l'abominable temple de Diane, à la fois en son endroit consacré? Certes, il le peut. Il est aérien, désincarné, omniprésent. Point tenu de distinguer entre ici et là, c'est lui qui dit « toutes les cloches sonnèrent » et donc lui qui les fait sonner. Si spirituel est ce génie, et si abstrait que grammaticalement l'on ne saurait parler de lui qu'à la troisième personne, et tout au plus dira-t-on « c'est moi, je suis le génie de la narration » en son actuelle résidence, la bibliothèque du cloître de Saint-Gall, au pays des Alamans, que jadis occupa Nocter le Bègue, et pour le divertissement et l'extraordinaire édification de mes lectures, je narre cette histoire en commençant par la fin, toute pénétrée de grâce et en faisant sonner les cloches de Rome, idem et en relatant que le jour de cette entrée dans la ville, toutes se mirent d'elles-mêmes en branle. Donc, c'est un texte daté de 1952. Alors, pour vous expliquer de tout ça, le texte de cet écrivain commence par « Les cloches sonnèrent ». Et il essaie, dans son texte, d'expliquer qui a dit, qui est le narrateur, quel est le profil de celui qui a dit « Les cloches sonnèrent ». Donc, cette longue citation permet déjà de comprendre ce qu'est le narrateur. Il explique qui est ce génie de la narration que nous devons destiner de l'auteur, écrivain, personne réelle. Donc la première chose à retenir est que le narrateur n'est pas une personne réelle. Le narrateur est une voix fictive à laquelle l'écrivain attribue le rôle de narrer son histoire ou narrer son intrigue. L'auteur a vécu ou vit réellement, son nom et sur la première de couverture. Mais déjà, lorsqu'il est pseudonyme, cette identité civile commence à se masquer. Il y a des écrivains, bien sûr, qui usent des pseudonymes, qui n'utilisent pas leur propre nom sur leurs produits. Donc ça, déjà, c'est un masque que portent certains écrivains. Le narrateur, lui, est celui qui raconte la fiction. Selon l'expression de Jean-Paul Goldstein, c'est la médiation narrative. Il l'appelle, c'est une médiation parce qu'il joue le rôle de médiateur entre l'histoire et l'écrivain. Cette médiation narrative apparaît de différentes façons dans le récit, selon des modalités diversifiées. Quel que soit le degré de présence manifestée du narrateur dans le récit, un récit ne se raconte jamais de lui-même. Donc il y a toujours une voix narrative. Parfois, le narrateur est juste une voix externe au récit, et d'autres fois, le narrateur est un personnage de ce récit, comme des fois, la narration est une alternance entre des voix anonymes et des voix personnages. Donc, il est créé et écrit par quelqu'un qui est l'écrivain. Les indices de la présence du narrateur sont plus ou moins faciles à repérer. Donc, il suffit de repérer à travers quelle personne se présente le narrateur pour nous. Donc, cette médiation, le narrateur peut ne pas l'adopter à découvert. Il peut la déléguer à un personnage qui dit « je ». Donc, lorsque la narration est faite à travers la première personne du singulier, on comprend directement que le narrateur est aussi un personnage, soit principal, soit secondaire du récit. Il peut le faire assumer par un autre personnage. Le récit peut donner l'impression d'être tout à fait objectif. Dans ce dernier cas, l'instance narrative reste neutre, donc la narration va être faite à partir de la troisième personne du singulier. Dans le cas du roman autobiographique, une confusion peut se créer entre l'auteur et le narrateur, puisque le narrateur est en train de raconter l'histoire de l'écrivain. Donc c'est l'écrivain qui raconte sa propre vie, et la voix du narrateur est calquée sur celle de l'écrivain. Le narrateur est donc l'organisateur du récit, bien sûr, il en oriente la vision, c'est lui qui raconte les événements, donc il est le dieu du roman, d'accord ? Il voit tout, il raconte tout, il est partout. Il en est également un des participants et distribue les voix dans le récit. C'est lui qui donne les paroles aux autres personnages, c'est lui qui leur permet de se manifester. Le narrateur est l'agent de tout le travail de construction. Il est un faisceau de marques d'énonciation. Donc, il choisit la progression narrative. Soit il accélère, soit il ralentit la progression narrative. Il choisit les modes du discours, direct ou indirect, rapporté, etc. Il choisit de centrer l'intérêt dans telle ou telle séquence, sur tel ou tel personnage ou tel événement. Donc, il choisit d'accélérer ou de ralentir le rythme de la narration, raconter un long événement en une phrase et raconter un court événement en 5 ou 6 pages, etc. Il choisit la progression temporelle, le rythme du récit avec l'alternance des temps forts et des temps faibles entre narration, action, description. Donc c'est lui qui gère l'avancement, si vous voulez, et la progression de la narration entre les séquences narratives et les séquences actentielles et les séquences descriptives. La question des visions dans le récit ou du point de vue a été étudiée par de nombreux critiques. Nous pouvons résumer les différentes distinctions. Donc on va se rencontrer en classe, nous allons étudier un tableau dans lequel j'ai résumé les différentes distinctions de la question de la vision entre différents chercheurs, mais nous retenons surtout celle faite par Gérard Genette, qui parle de focalisation zéro, focalisation interne et focalisation externe. Dans la focalisation zéro, le récit a un narrateur omniscient, c'est-à-dire que la narration est faite à partir de la troisième personne du singulier. Dans la focalisation interne, le récit a un point de vue narrateur-personnage. Et dans la focalisation externe, le récit est objectif et le narrateur ne sait pas tout, d'accord ? Il ne pourra pas avoir accès, par exemple, aux pensées des personnages, etc. Le narrateur peut donc se présenter sous différents aspects. Dans la vision illimitée, on dit que le narrateur est extra-diégétique, selon l'expression de Genette. Dans ce sens, le narrateur est le maître d'œuvre. Non représenté dans la fiction, il en domine tous les aspects. Donc ce n'est pas un personnage, c'est le dieu de la narration, d'accord? Il sait tout, il est partout, il peut être dans différents endroits en même temps de la narration. Il peut savoir ce que pensent les personnages, il peut connaître leur fonctionnement psychologique, il peut décrire leurs projets, d'accord? Il peut décrire leur passé, il les voit, il voit ce qu'ils font, il voit ce qu'ils prétendent, etc. Il est omniscient et omnipotent. Omniscient parce qu'il sait tout et omnipotent parce qu'il est très fort. Et c'est lui qui gère toutes les actions. Il est partout à la fois. Donc, c'est lui le responsable de tout, la narration, de tout le récit. Cette omniprésence est masquée. Jamais là, puisqu'il n'est pas représenté dans la diégèse, il est extra-diégétique, mais toujours là, puisqu'il est au courant de tout. Cette omniprésence est donc liée à son omniscience et omnipotence. Omniscience, ça veut dire qu'il sait tout. Omnipotence, ça veut dire qu'il est très puissant. Il sonde les plis les plus secrets de ses personnages. Il révèle des détails que seul le personnage est censé connaître. Il possède le don de l'ubiquité, ça veut dire qu'il peut se trouver dans plusieurs lieux en même temps. Il peut savoir ce que pense en même temps plusieurs personnages, et il use d'analepse ou de prolepse pour satisfaire la curiosité de son lecteur. Et je vous invite à faire une petite recherche sur la définition des analepses et des prolepses. Il peut aussi avoir une vision limitée lorsque c'est un narrateur intradiégétique. Intradiégétique, ça veut dire qu'il fait partie de la diégèse et donc c'est un personnage. Si le narrateur est mêlé à l'action, il peut avoir plusieurs statuts. Donc, il peut être un narrateur agent. Il s'exprime à travers le jeu et il est le héros de la fiction. On retrouve ce genre de narrateur dans les autobiographies et dans les autofictions. Il peut être un narrateur témoin. Il s'exprime à travers le jeu, mais ce n'est pas le héros du récit, ce n'est pas le personnage principal. C'est un personnage secondaire ou observateur. Il peut être un narrateur il, où le personnage parle de lui-même à la troisième personne du singulier, comme dans le roman La Peste de Camus, où l'on découvre à la fin que c'est le docteur Rieux qui parle de lui-même à la troisième personne et qu'il est l'auteur de la chronique qu'il raconte. Et troisièmement, la vision du dehors ou focalisation externe, c'est la position où le narrateur en saurait moins que son personnage, n'ayant accès à aucune conscience. C'est intéressant sur le plan théorique, mais semble difficile à tenir comme une dominante du récit. C'est une technique que l'on retrouve presque jamais dans les narrations. Donc le narrateur, il faut retenir deux points. Le narrateur, il est soit homodiégétique, soit hétérodiégétique. Donc, soit intradiégétique, soit extradiégétique. Petit 2, la présentation des faits par le narrateur. Donc, soit il en fait une relation, il les décrit en les commentant ou en les analysant à travers un style indirect, soit il les représente à travers les dialogues entre les personnages et les monologues d'un seul personnage. Mais ici, le narrateur joue sur tous les modes du discours, direct, indirect et indirect libre. Le narrateur, quand il s'exprime, il adresse sa narration non pas au lecteur, qui est une personne réelle, mais au narrateur, le narrateur qui est un élément fictif. C'est l'élément fictif qui reçoit la narration du narrateur. De même que dans l'art du récit, le narrateur n'est jamais l'auteur, déjà connu ou encore inconnu, mais un rôle inventé et adopté par l'auteur. Le narrateur n'est aussi pas le lecteur. Il peut être qualifié d'interlocuteur intratextuel construit par la fiction ayant un statut étroitement dépendant de celui du narrateur. Il est l'interlocuteur du narrateur. Lui aussi, il est fictif et il n'existe que dans le texte. Il est le tu auquel je s'adresse dans le roman. C'est une créature fictive et non dotée d'un état civil, tout comme le narrateur. Donc l'auteur s'adresse à un lecteur, tous les deux sont des personnes vivantes. Le narrateur est une voix fictive qui s'adresse au narrateur, qui est une voix fictive. De même que le narrateur peut être intra ou extra-diégétique, le narrateur peut aussi être intra ou extra-diégétique. Pour l'un comme pour l'autre, il s'agira de repérer les marques d'énonciation qui caractérisent leur profil dans une œuvre donnée. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous prie de prendre note des éléments que vous n'avez pas compris, de noter des questions et on va refaire ensemble. Je vais répondre à vos questions la semaine prochaine, inchallah, pendant le cours. Merci de votre écoute.